Frédéric Fréry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de stratégie à l'ESCP Europe. On va parler avec vous du secteur automobile et notamment la stratégie de Renault qui fait l'actualité, on pourrait dire, peu de temps après PSA, Peugeot Citroën, sur des questions de stratégie hein, du groupe. Comment vous analysez-vous ce qui est en train de se passer, où on voit donc le groupe en train de négocier, bien sûr, avec les syndicats sur, à nouveau, une baisse d'effectifs et en espérant que les sites français soient maintenus. Il y a un gros débat là-dessus. Comment on en arrive là sur un groupe comme Renault? On doit parler d'ailleurs de l'alliance Renault-Nissan.
Bien sûr. Ben moi, ce qui m'étonne en tant que professeur de stratégie, c'est que la stratégie de Renault, en fait, officiellement, telle qu'elle avait été annoncée, n'a pas fonctionné. Et ce qui fonctionne chez Renault, c'est-à-dire essentiellement Dacia, ne faisait pas partie des objectifs stratégiques. Donc c'est amusant de voir qu'un succès a été obtenu un peu par inadvertance, alors que ce qui était officiellement la stratégie, lui, n'a pas marché. Et sur les sites français, le problème évidemment, c'est que comme vous le savez, les modèles Dacia, ils ne peuvent pas être produits en France, hein, ne serait-ce que pour des raisons de coût de production. Et donc la fermeture des sites français est la conséquence, en fait, du fait que on pourrait croire que Dacia est en train de cannibaliser Renault en première analyse, mais ce n'est pas tout à fait ça. Si vous regardez bien, leurs gammes ne sont pas véritablement en concurrence les unes avec les autres. Le phénomène auquel on insiste plutôt, c'est que Renault s'effondre et Dacia monte. Et cette montée de Dacia éclipse l'effondrement de Renault. Or, le modèle économique de Dacia impose que la production, malheureusement, ne se fasse pas sur le territoire national. Et ça, c'est un vrai problème.
On se souvient des différents plans. Hein. On pourrait regarder ensemble les différents documents publiés par Renault au cours des dernières années. Et justement, sur la Logan, on voyait cette part de marché quelque part. Je ne sais plus si c'était 800 000, mais c'était un poids très important.
Absolument.
Par rapport à où en était Renault à ce moment-là. Donc on voyait bien la place qu'allait prendre petit à petit, et qu'elle a pris aujourd'hui, c'est Dacia.
Et en soulignant bien que ce n'était pas voulu. C'est-à-dire que la Logan, c'était une voiture qui était faite pour les pays émergents pauvres, pour utiliser une usine qu'ils avaient récupérée en Roumanie, qui a été faite de briques et de broc avec des pièces qu'ils avaient récupérées ailleurs. Ils appelaient ça une voiture Frankenstein. Et de fait, elle n'a pas paru tellement séduisante, intéressante pour les grands décideurs de Renault. Et ce n'est qu'après, lorsque ça a vraiment bien marché, qu'il a commencé à y avoir des importations parallèles, qu'ils ont officialisé sa venue en France. Ils ont bien fait, parce que c'est ce qui sauve alors actuellement le groupe. Le problème, c'est qu'une nouvelle fois, ce n'était pas une volonté. Ça a été fait malgré eux.
Alors, on pourrait dire que, je parlais de l'alliance Renault-Nissan, que du côté, effectivement, de la stratégie du groupe, les syndicats aujourd'hui reprochent au PDG Carlos Ghosn, justement, peut-être de s'être trop occupé de Nissan. Est-ce que Renault, finalement, n'a pas été le parent pauvre de l'alliance sur les différentes années, finalement, quand on voit en termes de produits
Là, il y a un retournement de l'histoire, il faut s'en souvenir. C'est-à-dire que Nissan a été sauvé par Renault. Enfin, en fait, par le gouvernement derrière, hein, français. Mais objectivement, Nissan a été sauvé par Renault, et maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt Nissan qui sauve Renault. On peut s'interroger quand même légitimement d'avoir quelqu'un qui dirige deux entreprises qui sont de chacune à un bout de la planète. C'est évidemment pas facile à faire. Jusqu'à présent, M. Ghosn le fait. Maintenant, évidemment, ça veut dire que de temps en temps, on fait des arbitrages. Et ce que dit la CFDT, moi, je ne sais pas, eux, ils sont à l'intérieur. Hein. Ce qu'on constate en tout cas, c'est sûr, c'est que si vous enlevez à Renault la béquille qui est Dacia et la perfusion qui est Nissan, Renault tout seul se retrouve dans une situation qui est encore plus critique, à mon sens, que celle de PSA. Il ne faut pas oublier qu'une partie des chiffres de Renault aujourd'hui sont réalisés à l'étranger, en Russie, au Brésil, avec des véhicules qui sont en fait chez nous vendus sous la marque Dacia. Donc ce qui reste de Renault, canal historique, je dirais, est réduit à une portion congrue.
Alors on le sait, hein, dans l'automobile, ce qui compte avant tout, c'est bien sûr le succès des produits. En l'occurrence, là, on pourrait dire qu'au cours des dernières années, Carlos Ghosn lui-même a lancé un certain nombre de nouveaux modèles. On pense à la Laguna dans le haut de gamme. Et il y avait un espoir dans ce haut de gamme, quand on compare à ce que font les constructeurs allemands notamment, pour reconquérir un marché. Et ça s'est passé peut-être au pire moment, mais il n'y a pas eu d'effet en tout cas.
Carlos Ghosn, effectivement, avait une stratégie officiellement affichée, qui était une stratégie de marge, qui était une stratégie de montée en gamme. Et la Laguna en était le symbole en quelque sorte. Et on est obligé de constater effectivement que ça a été un échec. Et que Renault n'est absolument pas sauvé aujourd'hui par des véhicules de marge et de montée en gamme, mais est sauvé par des véhicules low-cost roumains. Ce qui est quand même un retournement d'histoire assez surprenant. Et en tout cas, une espèce de réussite par inadvertance qui mérite qu'on s'y penche deux minutes.
Alors, on parlait de Nissan. Effectivement, ça reste dans les cartons de se dire est-ce qu'il pourrait y avoir une production Nissan en France, hein? Est-ce qu'en termes de...
On parle de Mercedes
oui,
aussi.
Oui. Est-ce que c'est faisable? C'est-à-dire, on parlait autant dire pour Dacia, c'est pas possible compte tenu de ce qu'on a dit, mais est-ce que plus de la production... On sait que Nissan, par exemple, il y a une usine Sunderland en Angleterre qui est très, très rentable. Est-ce qu'on peut faire la même chose en France ?
Alors, qui est très rentable avec, je crois, ils ont annoncé un âge moyen de 28 ans.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des conditions locales qui ne sont pas tout à fait les mêmes, un droit du travail qui est très différent, et je ne suis pas sûr que c'est totalement importable, tout ça. Maintenant, oui, comme vous le savez, le gros problème à l'heure actuelle de l'industrie automobile, c'est qu'il y a une surproduction qui était historiquement très très forte. Hein, suivant les analyses, je crois que c'est au moins 2 millions de véhicules en surproduction chaque année. Donc les usines ne fonctionnent qu'une petite partie de leur capacité de production. Or, il faut payer les coûts tous les ans, notamment le personnel, mais pas que, tout l'ensemble des coûts. Et si vous avez une production qui est trop faible, bah, vous perdez de l'argent. Et donc, il faut trouver de la production. Toute la négociation que vous avez à l'heure actuelle chez Renault, c'est bien pour rajouter des unités de production, des véhicules produits en plus, de manière à couvrir le seuil de rentabilité des usines. Donc, produire des Nissan dans les usines Renault, ça permet de remplir les usines. Produire des Smart ou d'autres modèles Mercedes, éventuellement véhicules utilitaires, ça permet de couvrir le coût des usines. C'est évidemment une décision qui, a priori, est sage. Maintenant, c'est un peu du replâtrage, c'est-à-dire que ça ne remplace pas la production propre.
Alors, vous parlez de l'Europe, on serait vu il y a une dizaine d'années, on en aurait déjà parlé de cette surproduction. J'ai suivi le secteur automobile il y a plus de 10 ans, on parlait déjà de surproduction, on disait qu'il y avait un constructeur de trop en Europe. On va dire 12 ou 13 ans après, on est toujours dans la même situation. Mais simplement, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres.
Alors, on est dans une situation bien pire, parce que le marché s'est effondré.
Oui.
C'est-à-dire que surproduction, quand en plus le marché s'effondre, évidemment, là, la production, elle devient criante. Vous ajoutez à ça une guerre des prix. Parce que s'ils veulent couvrir leurs coûts de production, bah bien évidemment, ils vont essayer de remplir leurs usines. Et pour remplir leurs usines, ils vendent à peu près à n'importe quel prix. Et ça, bah, ça rajoute évidemment à la situation qui existait précédemment. Un constructeur de trop, pour l'instant, ce sont plutôt des constructeurs de petite taille qui ont disparu. Je pense à Saab, etc. Mais c'est sûr qu'on peut toujours faire la même analyse. En période de tension et avec surproduction, la théorie économique nous dit qu'il va y avoir des concentrations.
Alors, il y a eu aussi un pari de Renault, en tout cas vis-à-vis des investisseurs, sur le tout électrique, que n'ont pas fait d'autres constructeurs. Quand on interroge globalement les constructeurs, on voit sur l'électrique, ils sont en général assez prudents. Ils parlent d'hybride, de quelques véhicules électriques, mais le tout électrique, sauf Renault. Il n'y a que Renault qui en parle. Ouais. Est-ce que c'est la chance de Renault ou un nouveau risque ?
On va dire que c'est un pari qu'on pourrait qualifier de téméraire. Mais après tout, il y a des gens qui ont réussi grâce à des paris téméraires, historiquement. La particularité du véhicule électrique, quand même, c'est que c'est une très vieille technologie. Vous savez que c'est plus ancien que la voiture à essence. La première voiture a atteint les 100 km/h en 1900, c'était une voiture électrique. Donc c'est une vieille technologie. Et pouvoir parier sur cette technologie, c'est parier sur des progrès technologiques très significatifs au niveau de l'autonomie, qui a toujours été le gros problème. Et pour l'instant, il faut admettre que ça ne donne pas les résultats escomptés. Alors une solution qui avait été envisagée par Renault, qui quand même réfléchit très intensément et investit de l'argent là-dessus, c'était les fameuses stations d'échange de batteries. Or, ce qui devait servir de prototype à ces stations d'échange de batteries, c'était l'opération réalisée en Israël avec l'entreprise Better Place. Et malheureusement, on a appris dernièrement que les résultats sont extrêmement décevants, au point que l'apporteur de l'idée, Shai Agassi, a été renvoyé de la direction de Better Place. Donc pour l'instant, je dirais que le modèle économique qui a été construit par Renault autour de l'électrique continue à poser des questions. Et c'est vrai qu'il n'y a guère que Renault maintenant qui tient un discours véritablement positif et optimiste sur cette technologie. Maintenant, il ne faut pas négliger l'intervention étatique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des décisions avec des financements publics qui disent on va obliger d'une manière ou d'une autre à cette mutation technologique. Mais j'ai tendance à dire quand même que jusqu'à présent, le véhicule zéro émission, c'est aussi un véhicule zéro client.
Alors, en conclusion, peut-être, puisque vous êtes professeur de stratégie, quand on regarde, si on compare PSA à Renault sur les dernières années, PSA, ils ont changé 4 fois de capitaine, de dirigeant, pour essayer d'adapter la stratégie. Renault n'en a pas changé, et on voit bien de plus en plus, effectivement, Carlos Ghosn mis en cause sur, justement, cette capacité à gérer. Puisque si on regarde du côté des prévisions des analystes, on se souvient de la marge opérationnelle à 6%, on l'attend encore, il y a un vrai problème. Mais pourquoi il tient si longtemps? On pourrait se dire d'autres PDG dans d'autres circonstances auraient déjà été démis de leurs fonctions par les actionnaires pour résultats non tenus.
Alors, nous ne sommes pas à la place du conseil d'administration. Pour autant, je crois que la longévité de Carlos Ghosn à la tête de Renault s'explique par le fait qu'il a su s'imposer, et peut-être qu'il l'est objectivement, comme le garant de la solidité de l'alliance avec Nissan. Et c'est normal, étant le dirigeant des deux, étant extrêmement respecté au Japon, ce qui ne serait pas le cas d'un autre patron français, tant que Carlos Ghosn est là, l'alliance tient. Et tant que l'alliance tient, Renault ne meurt pas et Renault continue à pouvoir bénéficier des apports de Nissan. Et donc ça, c'est extrêmement fort. Maintenant, est-ce qu'on peut faire reposer tout ça sur un individu? Est-ce que ça fait qu'on n'a pas besoin de se poser de questions sur le fait que sa stratégie n'est pas réalisée? Ça, on peut laisser le conseil d'administration juger, mais on peut se poser effectivement la question. PSA a suivi une logique différente, peut-être trop de remplacements d'ailleurs de dirigeants chez PSA. La stratégie de PSA, en un mot, à mon sens, hein, elle a plutôt péché par manque de ressources qui ont été allouées à des choix qui étaient finalement pas mauvais, mais qui ont été faits à minima, alors qu'ils auraient dû être poussés plus directement.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Frédéric Fréry. On rappelle que vous êtes donc professeur de stratégie à l'ESCP Europe.
Merci.